Bonsoir à tous. En tout cas, merci d'être venus aussi nombreux. Je vois que l'intérêt pour le patrimoine mantais, vous portez un intérêt particulier à cela. Donc voilà, nous commençons l'année avec ce cycle de conférences consacré au patrimoine et à l'architecture mantaise. Nous allons l'intituler ce cycle « Les jeudis du patrimoine » puisque ce rendez-vous se fera effectivement les jeudis et à peu près une fois par trimestre. Ce cycle a déjà commencé le 8 décembre, puisque certains d'entre vous étaient présents pour assister à la conférence consacrée à la reconstruction de Mantes. Et aujourd'hui, donc, nous retrouvons pour la deuxième partie, la suite. Damien des archives qui est présent fera un petit rappel de ce qui a été cette première conférence. Mais pour ceux qui auraient voulu en savoir un petit peu plus, nous avons donc enregistré la séance et vous pourrez à cette occasion aller sur le site du Chapelain, puisque Pierre Cueny, qui est ici présent, qui enregistre également encore cette conférence, vous propose d'aller découvrir l'enregistrement qui est en ligne sur son site. Donc vous connectez au site du Chapelain. Conférence, vous la retrouverez dans la série « Écoutez ma ville ». C'est bien ça? Voilà. Et également, vous pouvez retrouver ce CD, dans les médiathèques du Hamel et Aragon, donc à emprunter si vous êtes inscrit. Alors, juste très rapidement, pour vous dire pourquoi nous avons choisi de faire ce cycle de conférences. Bon, bien évidemment, pour la valorisation de ce patrimoine, mais surtout que je rappelle qu'en avril 2015, la ville de Mantes a signé donc une convention avec la région Île-de-France ainsi que le CAUE des Yvelines pour mener un inventaire urbain, paysager, environnemental sur tout le territoire. Eh bien, tout ce travail qui a été fait justement donc par Madame Bussière qui va intervenir sur cette conférence, vous rendra compte de tout ce travail qui a été réalisé. Et là, donc, je ne vais pas être plus longue. Je vais laisser la parole donc à Damien Boucher, qui est notre archiviste, et puis Hélène Bussière, qui est donc conservateur pour le patrimoine et inventaire de la région Île-de-France. Voilà, je vous souhaite une belle séance. Merci.
Merci. Alors effectivement, pour commencer, pour faire le lien un petit peu avec la conférence du mois dernier, conférence donc au cours de laquelle nous avions vu finalement l'importance et l'héritage que revêtait évidemment la période de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi les décennies précédentes dans le processus de reconstruction donc qui va s'amorcer au sortir de la guerre. Héritage, bien sûr, à travers les destructions consécutives au bombardement, à travers, on l'avait vu, toute la problématique autour des îlots insalubres dans les bas quartiers, et aussi à travers les projets, finalement, quand même, somme toute, assez précurseurs, qui avaient déjà émergé au cours des années 20 et des années 30, axés pour l'essentiel, quand même, autour des préoccupations hygiénistes, autour de cette question d'hygiène. Donc, ces trois points qu'on avait vus la dernière fois, et qui ont, en quelque sorte, amorcé, puis déclenché ce processus de reconstruction. Et aujourd'hui, nous allons voir à quel point Mantes s'est engouffré finalement, et ce, dès la fin des années 40, dans cette brèche de la modernité qui n'avait encore été qu'à peine entrouverte à l'occasion donc des premiers projets, des premières réflexions et des quelques premières réalisations, mais on a vu qu'elles étaient finalement très limitées, qui avaient été réalisées avant 1944. Alors, pour introduire cette seconde conférence, il faut bien comprendre que ce que l'on appelle la reconstruction, ce terme de reconstruction à Mantes, et c'est un peu tout le sens qu'on a voulu lui donner en lui consacrant donc deux conférences, ce processus de reconstruction, il doit s'appréhender à la fois dans un temps finalement relativement long et en même temps un temps particulièrement court, et que cette double approche finalement n'est pas aussi paradoxale qu'il n'y paraît, et à mon sens elle est nécessaire pour saisir à la fois quand même la complexité de ce phénomène une fois qu'on a un petit peu dépassé l'approche, qu'on avait dépassé la dernière fois, l'approche un peu déterministe, destruction, reconstruction. On avait vu combien c'était beaucoup plus global, beaucoup plus large que les seules réparations, que les seules reconstructions suite aux destructions des bombardements, mais aussi et surtout ce qui va faire la singularité de la reconstruction, du processus de reconstruction dans notre commune. Alors, un temps court d'abord parce que la reconstruction, d'une manière générale, c'est ce qui la caractérise en premier lieu, quand on parle de reconstruction, c'est quelque chose qui va se réaliser dans une période nécessairement restreinte, période au cours de laquelle on va passer rapidement d'un état, et c'est le cas à Mantes, d'un état en tout cas partiellement détruit, vieillissant, on avait vu aussi cet aspect-là la dernière fois, à un état largement construit et moderne. Et tout cela à Mantes, comme dans d'autres villes, mais à Mantes en particulier, se fait sur un temps très court, en une, deux décennies, à peine on va passer de cet état en partie détruit, vieillissant, à une ville résolument moderne. Donc ça, c'est vraiment ce temps court de la reconstruction qui se produit à Mantes entre la fin des années 40 et le début des années 60. C'est vraiment au cours de cette période que se concentre le cœur de la reconstruction. Pour autant, il faut aussi remettre ça dans une perspective plus large, dans un temps plus long, car on sent bien, et on en a vu les raisons encore une fois lors de la première conférence, que ce que l'on peut définir comme la reconstruction à Mantes recouvre une période plus longue, au cours de laquelle donc Mantes va passer d'une ville dont on a vu encore qu'elle était encore largement marquée par son héritage médiéval, d'une ville encore ancienne, telle qu'elle se présentait au début du XXe siècle, à une ville résolument moderne. Alors, si on devait donner une chronologie à cette reconstruction, c'est un processus qui se fait en trois temps. Il y a dans un premier temps ce que j'appelle ce qu'on a vu la dernière fois, la reconstruction en gestation, au cours entre les années 20 et le début des années 40, avec déjà un certain nombre de réflexions, de projets pour réaménager, moderniser la ville, et donc les éléments précurseurs qui vont ensuite se concrétiser dans les années suivantes. Donc ça, c'est la première étape, la reconstruction d'une certaine manière en gestation. La deuxième étape de cette reconstruction, ce que j'appelle la reconstruction un peu précipitée, c'est celle qui va avoir lieu immédiatement dans les années qui suivent la fin de la Seconde Guerre mondiale, de grosso modo entre 1945 et 1948, parce que l'ampleur des destructions impose une reconstruction à la fois importante et à la fois rapide. Donc ça, c'est le cœur de la reconstruction, celle qui est précipitée de fait par les événements de la Seconde Guerre mondiale. Et puis la troisième étape, et c'est essentiellement celle-là qu'on va voir aujourd'hui, c'est une reconstruction que là j'appelle beaucoup plus globalisée, une reconstruction donc qui va se faire sur l'ensemble de la commune dans le cadre d'un plan urbain beaucoup plus vaste. Sur le plan chronologique, c'est toutes les réalisations qui vont avoir lieu entre la fin des années 40 et, pour l'essentiel, les années 50, le début des années 60. Autrement dit, ce qui caractérise et singularise la reconstruction à Mantes, c'est toujours, c'était déjà le cas, on l'avait vu la dernière fois au cours des années 20, au cours des années 30, c'est toujours cette capacité à s'intégrer dans une réflexion et un projet d'aménagement, de développement, de modernisation globale qui influence la façon dont cette reconstruction va être menée à Mantes en particulier. Là encore, il faut bien avoir à l'esprit, quand on parle de reconstruction en France et d'une manière générale, ça désigne effectivement tout ce qui va se réaliser suite au bombardement, mais ça reste pour autant un phénomène qui n'est en rien homogène. Les reconstructions, elles vont prendre des formes extrêmement différentes en fonction des villes, et la façon dont les différentes villes vont procéder, donc après les bombardements, essentiellement au cours de l'année 44, dépend en effet très fortement du contexte, des circonstances et des volontés locales qui vont varier d'une commune à l'autre, d'une ville à l'autre, et qui vont influencer cette reconstruction. Alors, pour vous prendre deux exemples parmi sans doute les plus représentatifs et les plus connus des différents types de reconstruction qu'on peut avoir, on va avoir d'un côté des villes comme Saint-Malo qui vont être là dans une logique de reconstruction à l'identique, alors pas complètement à l'identique, mais en tout cas dans l'esprit de respecter le plan et l'architecture d'origine. Donc ça, c'est une première approche de la reconstruction, c'est ce qui se passe à Saint-Malo. Et à l'opposé, on va avoir d'autres villes, à l'image de la ville du Havre, qui au contraire, donc sous l'impulsion d'Auguste Perret, qui au contraire va faire complètement table rase de son passé pour complètement se réinventer. Donc on voit là, on a un peu les deux exemples extrêmes, des villes qui s'engagent dans une reconstruction un peu à l'identique, d'autres qui au contraire en profitent, entre guillemets, pour complètement se moderniser et réinventer un autre modèle urbain. Mantes, nécessairement, va se situer un peu entre ces deux situations, puisque à Mantes, très clairement, et là, il n'y a vraiment aucune source, aucun document qui fait état de cela, on ne va pas être dans une nostalgie du passé, donc on ne va pas être dans une volonté de reconstruction à l'identique, essentiellement parce qu'on avait déjà imaginé de profondément réaménager la ville avant la Seconde Guerre mondiale. Donc à Mantes, on n'est pas non plus dans cette nostalgie du passé, pas dans cette volonté de reconstruction à l'identique, mais pour autant, on ne va pas être non plus dans une création, je dirais, ex nihilo, à l'image de ce qu'on peut voir dans certaines villes comme au Havre, ne serait-ce que parce que à Mantes, contrairement à certaines villes comme le Havre, les destructions, aussi importantes ont-elles été, ne restent que partielles. Donc il y a quand même un existant avec lequel il faut composer, donc on ne va pas être dans une reconstruction ex nihilo. Et ce qui va finalement caractériser entre ces deux tendances en matière de reconstruction, si je peux dire, ce qui va caractériser la reconstruction à Mantes, c'est vraiment cette quête de modernité qui, on l'avait vu la dernière fois, apparaît déjà dès les années 20, dès les années 30, et là qui vraiment, dans la deuxième phase de reconstruction, à la fin des années 40, années 50, va prendre une toute autre dimension. Alors, le contexte, évidemment, par rapport à ce qui avait déjà été imaginé, à ce qui avait déjà été réfléchi au cours des années 20 et des années 30, le contexte, évidemment a énormément évolué. Et à partir de 1945, on va voir l'émergence de nouveaux enjeux, de nouveaux défis par rapport à ceux qui étaient observés avant la Seconde Guerre mondiale. On avait vu combien la question hygiéniste, notamment, était prépondérante. Ce sera beaucoup moins le cas dans les années qui suivent la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc si la reconstruction s'amorce, elle reprend en partie, comme on l'a vu la dernière fois, certains projets qui avaient été imaginés dès les années 20 et dès les années 20-30, elle prend quand même une toute autre envergure dès la fin des années 40, avec un contexte qui a donc profondément évolué, alors sur trois aspects en particulier. D'abord, sur le plan démographique, au niveau de la population, on observe une augmentation. Je vous ai mis les chiffres là, des différents recensements de population qui ont eu lieu au cours de cette période-là. On observe donc une augmentation significative de la population à Mantes, entre 46 et 54, donc la ville va gagner 2000 habitants pour une population qui s'établit un peu plus de 15 000 habitants. Cette augmentation, elle est due pour l'essentiel à l'augmentation du nombre de naissances, puisque à Mantes, comme partout ailleurs, on va rentrer dans cette période qu'on appellera plus tard le baby boom. Le nombre de naissances est de fait à Mantes multiplié par deux, puisque avant la guerre, en 1939, le service de l'état civil enregistrait à peu près 500 naissances par an. À partir des années 50, on va être sur un rythme de 900 à 1200 naissances par an. Donc, nombre de naissances multiplié par deux, qui explique en grande partie cette augmentation de la population, puisque en parallèle, le nombre de décès, lui, augmente très peu. L'immigration, jusqu'en 1954, reste très marginale dans cette augmentation de la population, puisque toujours dans le recensement de 1954, on ne compte que 148 étrangers. Ce chiffre augmentera plus sensiblement dans les années qui suivent 1954. Pour autant, cette augmentation, encore au début des années 50, hein, vous le voyez sur le graphique, elle est significative, mais elle reste néanmoins relativement limitée. En réalité, elle est tributaire aussi du nombre de logements qui pourront accueillir cette nouvelle population. Donc ça, c'est le premier élément de contexte qu'il faut quand même avoir à l'esprit avant d'aborder la reconstruction, cette augmentation de la population qui, vous voyez, va aller sur un rythme exponentiel ensuite à partir des années 60. Sur le plan économique, au sortir de la guerre, le paysage industriel du Mantois, tel finalement qu'il s'est installé au cours de la première moitié du XXe siècle, n'a encore que peu évolué. Ainsi, à l'occasion des grandes grèves de novembre 1947, qui sont toujours l'occasion, parce que ce n'est pas toujours évident d'avoir des chiffres précis sur les effectifs des principales usines et entreprises de la région, à l'occasion donc de ces grèves de novembre 1947, on a des chiffres plus précis en la matière, et on sait que les principaux effectifs d'ouvriers et d'employés de la région, tels qu'ils sont rapportés à l'époque par le courrier de Mante, ils se répartissent entre la SNCF, hein, qui compte 900 ouvriers et employés, la CIMT, donc toujours dans l'industrie ferroviaire, c'est 750 ouvriers et employés en 47, la filature Leblanc à Mantes-la-Ville, 600 ouvriers, l'usine Saint-Ger à Bonnières, 400 employés. Les cimenteries, à la fois celle de Lafarge et celle de Guervy, respectivement 300 et 277 ouvriers. Ou encore plus modestement, les établissements Aviac à Mantes-la-Ville. Au sortir de la guerre, ça reste les principales industries du Mantois. Et ce n'est qu'à partir des années 50 que l'industrie va commencer à entamer à la fois une mutation et un développement dans la région, avec en particulier donc l'installation de Sulzer, donc à la place de la CIMT en 1956, l'installation également de Dunlop en 1951 sur le site de l'ancienne papeterie, et puis bien sûr l'installation de l'usine Renault à Flins en 1952. Donc on voit que c'est vraiment dans ces années 50-là que le paysage industriel du Mantois va se développer et va évoluer. Hein, et dans le recensement de 1954, là encore, c'est assez clair. Donc, il y a encore beaucoup de Mantais qui déjà travaillent à l'usine Renault à Flins. Donc ça reste parmi les principaux pourvoyeurs d'emplois de la région à l'époque. Donc on a ce développement industriel qui commence à émerger à compter des années 1950. Et enfin, sur le plan politique, après un bref intermède avec un maire communiste, c'est l'élection de Jean-Paul David, donc en 1947, et qui restera maire de Mantes pendant 30 ans, qui s'avère de fait déterminante dans le processus de reconstruction. En tout cas, elle lui est intimement liée. Ce qui est significatif, c'est que ces enjeux urbains et architecturaux, ils sont vraiment extrêmement présents dans la vie politique de cette époque, de la fin des années 40 et de la fin des années 50. Là encore, il y a plusieurs documents qui en témoignent. Mais par exemple, si on regarde le compte-rendu de la fin du premier mandat de Jean-Paul David, donc celui qui va être diffusé à l'occasion des élections de 53, des élections municipales de 53, ce compte-rendu, il est quasiment exclusivement consacré au projet de construction, ceux qui ont été réalisés, ceux qui sont en cours et ceux qui sont à venir, mais c'est vraiment l'essentiel du bilan, en tout cas tel qu'il le présente de Jean-Paul David au sortir de son premier mandat. En tout cas, ça démontre la prépondérance de ces enjeux urbains et architecturaux dans la vie et dans les débats politiques de cette époque. La municipalité, donc, qui a été nouvellement élue en 1947, elle doit effectivement rapidement faire face à deux défis majeurs. Ce sont ceux qu'on va aborder au cours de cette conférence. Le premier défi, c'est celui d'apporter des réponses aux besoins qui sont particulièrement importants en termes de logement, donc pour plusieurs raisons sur lesquelles on va revenir, mais ça c'est le premier défi, le logement. C'est l'une des préoccupations majeures, c'est la préoccupation même majeure des années de l'après-guerre. Et la deuxième préoccupation, qui est en lien avec cette augmentation de la population, c'est celle qui va consister à doter la ville d'équipements et de services modernes pour répondre justement aux besoins de cette nouvelle population qui ne cesse de croître et qui va ne cesser d'augmenter au cours de ces années. Donc le premier défi, celui par lequel on va commencer, c'est vraiment celui du logement et de l'habitat. Alors quelques éléments généraux sur cette problématique, ce qu'on peut véritablement appeler une crise du logement hein, à la fin des années 40 et tout au long des années 50, avant de céder la parole à Roselyne Bussière qui vous présentera donc quelques-unes des principales réalisations en matière de logement au cours de ces années-là. Éléments généraux, d'abord pour vous préciser qu'effectivement le manque de logement est véritablement criant à Mantes au sortir de la guerre. Les causes en sont multiples, mais on a trois causes principales, à la fois bien sûr les destructions liées au bombardement, la vétusté, on l'avait vu aussi le mois dernier lors de la dernière conférence, la vétusté d'un certain nombre d'immeubles et de logements particulièrement dans le centre-ville, et puis donc cette augmentation de la population. Ces trois facteurs conjugués font qu'on est face à une demande excessivement forte de logements, demande à laquelle la ville va devoir rapidement trouver des solutions, parce que les constructions forcément prennent du temps à se réaliser de manière concrète, et donc la ville va devoir dans un premier temps s'orienter aussi vers des solutions plus provisoires, plus précaires, dans l'attente de la construction de ces nouveaux immeubles. L'une des premières réponses qui va être apportée à cette crise du logement qui émerge à la fin des années 40, c'est l'édification d'ensemble de dizaines de baraquements, qu'on appelle des baraquements provisoires, à différents endroits de la ville. Alors, pour l'essentiel, ils vont être situés sur différents... On va essayer de zoomer un peu sur le plan. À différents endroits de Gassicourt, on va avoir un ensemble sur la place de Lorraine, mais qui est essentiellement dédié à accueillir des baraquements pour les commerces, pour réinstaller des commerces. Pour les habitations, pour l'essentiel, hein, c'est ce que vous voyez par les lettres A, B, E et D, vont être édifiés sur différents terrains disponibles sur la commune des Gassicourt. Alors les baraquements provisoires, concrètement, ça ressemble à ce type de construction. Alors là, clairement, on est au moment où ils vont être détruits. Donc on voit qu'ils sont déjà dans un état assez vieillissant. Mais c'est ce type de baraquement qui vont être construits. Alors il y a selon les endroits, ça va être en général par dizaines sur différents terrains. Donc on en a plusieurs qui vont être donc construits sur ces différents... Donc ça reste des constructions évidemment provisoires, hein, qui ont une vocation très clairement provisoire. Et d'ailleurs, on voit que là, au moment de la construction, visiblement, ça a quand même relativement mal vieilli, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour autant, au moment où ces baraquements sont édifiés, par rapport encore une fois au contexte très compliqué dans lequel on est au sortir de la guerre, ces baraquements offrent néanmoins des conditions de vie relativement décentes aux habitants, hein, par rapport à ce qu'ils pouvaient connaître par ailleurs, notamment donc, sur le plan de l'hygiène et de la salubrité. Si on regarde le plan un peu détaillé, donc là c'est un type, c'est vraiment des pavillons, des baraquements type, hein, qu'on va sans doute retrouver dans différentes communes, hein. Là on est vraiment sur une maison démontable, mais on voit qu'il y a quand même à la fois un espace suffisant et qu'il y a un certain nombre de commodités là, par... Si je zoome aussi, on peut voir qu'effectivement, si on rentre vraiment dans le détail, que ces logements disposent d'un WC, ce qui n'est pas non plus complètement anodin à l'époque. Enfin, c'est un confort qu'on n'avait pas, loin s'en faut, dans tous les logements. Donc ça apporte quand même un certain confort en termes de logement, en tout cas, encore une fois, par rapport au contexte de crise dans lequel on est. Au total, on va compter 124 baraquements provisoires de ce type sur l'ensemble de la commune. Donc ça, c'est la première solution qui va être apportée. La deuxième solution, un peu plus tardive, parce que ces baraquements, à la fois, ne permettent pas, encore une fois, de répondre au nombre important de demandes en matière de logement, et a fortiori, on l'a vu, ils ont un caractère provisoire et vieillissent assez mal. Donc on va imaginer un deuxième type de solution, toujours provisoire, qui vont émerger à partir de 1954. Ça fait suite assez directement d'ailleurs au célèbre appel de l'abbé Pierre à cette époque-là, et qu'un peu à la suite de ça, au niveau national, va être décidé donc un programme de construction de ce qu'on va appeler des logements de première nécessité, donc qui est décidé au niveau national, qui vont prendre la forme de ce qu'on va appeler des cités d'urgence. Et on va avoir deux d'entre elles qui vont être voir le jour à Mantes, donc qui vont être construites dès le début de l'année 55. Donc deux cités d'urgence à Mantes. Ouais. La cité la plus importante d'abord, la cité des Grandes Vignes. C'est la plus importante qui compte 120 baraquements, 120 constructions. Donc la cité des Grandes Vignes, elle est située entre le stade, à l'époque le stade de la Demi-Lune, le stade Jean-Paul David aujourd'hui, et Sainte-Anne-de-Gassicourt, hein, sur ce terrain-là. Donc c'est la cité la plus importante, donc construite au début de 1955. Et on a aussi à Gassicourt la cité des Basses-Coquilles, donc plus modeste, c'est 48 logements. Donc c'est deux cités d'urgence qui sont édifiées donc au début de l'année 55. Donc là, vous voyez la construction de la cité d'urgence, donc celle de Gassicourt, des Basses-Coquilles, pour vous donner un peu une idée de la forme que prennent ces cités d'urgence. Donc, on reste dans un habitat provisoire, mais qui, d'une certaine manière, s'améliore un peu par rapport au baraquement que je vous ai montré juste avant. Et de la même manière, donc, la cité d'urgence des Grandes Vignes, construite à la même époque, dès le début de l'année 55, ouais, une vision un peu plus globale, donc qui permettent encore une fois d'accueillir un nombre important de populations confrontées à cette crise du logement. Ces solutions provisoires, hein, elles perdurent quand même jusqu'à la fin des années 60. Les premiers baraquements provisoires que je vous ai montrés tout à l'heure, ils sont détruits entre 1950 et 1968 pour certains d'entre eux. Et les cités d'urgence ne vont être détruites qu'au début des années 70. Donc c'est un provisoire qui dure quand même un certain nombre de temps. Et c'est une période finalement assez singulière à Mantes, dans la mesure où toutes ces solutions diverses qui sont apportées à la crise du logement vont cohabiter un certain temps. Donc on va avoir la construction de nouveaux immeubles, hein, en dur, on a ces baraquements provisoires, on a ces cités d'urgence, et tout cela, notamment au cours des années 60, cohabite, et on trouve notamment cela justement sur ce quartier autour de la rue des Garennes. Vous voyez que sur cette photo-là, ce que j'ai entouré en orange, on a à la fois donc cet ensemble de baraquements provisoires, et en même temps, donc on a bien cette cohabitation entre ces deux types de solutions, la cité d'urgence des Grandes Vignes qui cohabite et qui donc sera remplacée ensuite sur le même terrain par ces petits immeubles là, à 4-5 étages sur ce terrain-là, donc qui vont être édifiés ensuite dans les années 70. Donc c'est vraiment le symbole de ces trois solutions qui se succèdent, mais en même temps se chevauchent dans le temps. D'abord des baraquements provisoires, les cités d'urgence, avant vraiment d'avoir des logements plus pérennes, le temps que les programmes de construction se réalisent. Et de fait, pour un certain nombre, pas systématiquement, mais en tout cas pour un certain nombre d'habitants, pour un certain nombre de Mantais, ils vont transiter d'une solution à l'autre. On le voit notamment dans les demandes de logements qui sont faites lorsqu'ils construisent la cité d'urgence des Grandes Vignes, où on a un certain nombre de, parmi les demandeurs de logements, on a un certain nombre de personnes, de familles qui habitaient auparavant dans les baraquements provisoires, qui vont demander à être relogées dans les cités d'urgence, et probablement on peut imaginer ensuite qu'elles vont être relogées dans des logements pour le coup plus durables. Donc on a ce parcours locatif qui n'est pas systématique, mais qui reflète un peu ces différentes solutions qui sont apportées au problème du logement dans ces années-là. Pour en terminer sur ces éléments un peu généraux sur cette problématique du logement, on a une étude qui a été réalisée à l'occasion du recensement de 1900, donc les recensements de population, à l'occasion donc du recensement qui a été fait en 1962 et qui du coup livre une étude pour le coup particulièrement précise sur les conditions de logement à Mantes, donc en 1962. Alors il y a énormément de chiffres, donc je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais il y a trois enseignements majeurs qui peuvent être tirés de cette étude si on parcourt un peu les différents chiffres et si on les compare aussi avec les époques précédente. Je vais juste détailler un petit peu après, mais ces trois enseignements majeurs, c'est qu'on est sur un rythme particulièrement intense et rapide de construction. Je vais vous montrer les chiffres après. Que la modernisation, elle progresse, mais qu'en même temps, la précarité, elle persiste. Hein, cette crise du logement, elle est encore présente au début des années 60. Tous les problèmes ne sont pas encore résolus, loin s'en faut. Alors, sur le rythme de construction, j'ai reconstitué le nombre de constructions par période de 4 à 5 années. On voit très clairement ce rythme de croissance extrêmement rapide qui démarre à partir de 1948-49 et qui va s'intensifiant donc jusqu'aux chiffres particulièrement impressionnants qui sont liés ensuite à la construction du Val-Fouré. Mais on voit que le rythme de construction de logements est particulièrement rapide et particulièrement important. C'est encore plus significatif si on rapporte le nombre de logements neufs, en tout cas ceux qui ont été construits donc après 1948, sur l'ensemble du parc immobilier de la commune. Et vous voyez que cette proportion, elle va vraiment être de plus en plus importante au fil du temps. En 1962, pour clarifier sur ce graphique, donc ce qui est en bleu, c'est le nombre total de logements. Et ce qui est en orange, donc, c'est le nombre de logements récents, en tout cas ceux qui ont été construits en 1948, ce qui permet de savoir la proportion de logements neufs, en tout cas de logements récents, sur l'ensemble des logements que compte la ville de Mantes. Donc en 1962, les logements récents, Il représente 30% de l'ensemble du parc, donc c'est déjà significatif. Mais vous voyez que ce nombre va vraiment énormément augmenter pour atteindre, là encore avec la construction du Val-Fouret, 75% de logements qui finalement ont moins à peine 30 ans, en 1975, 75% sont des logements de l'après-guerre. Donc c'est vraiment une très grande partie. Donc en ce sens, ça renvoie vraiment à cette notion de reconstruction. Là, on peut vraiment parler de reconstruction par rapport à ces chiffres particulièrement importants de la construction de logements à Mantes au cours des années 50, 60 et même encore 70. Le deuxième enseignement que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la modernisation de logements qui est évidemment directement liée à cette construction de logements neufs. Or, j'ai pris, il y a énormément de chiffres, encore une fois, dans cette étude, j'ai pris quelques paramètres parmi ceux qui me semblaient le plus significatif de ce qu'on pouvait considérer. Encore une fois, tout cela est replacé dans le contexte de l'époque, mais de ce qu'on pouvait, qui pouvait nous permettre de considérer un logement comme moderne, en tout cas avec les équipements et les installations de confort modernes. Et vous voyez donc là aussi, au cours, donc c'est les études qui sont réalisées en 62, 68, 75, elles montrent bien la progression de ces équipements modernes dans les logements. Alors, l'eau courante, ça, il n'y a pas de difficulté particulière, parce que dès le début, la plupart des logements sont raccordés à l'eau courante. En revanche, sur les autres paramètres que j'ai retenus, donc à la fois le fait de disposer de l'eau chaude, d'avoir une baignoire ou une douche, d'avoir des WC à l'intérieur du logement et d'avoir un chauffage central, tous ces éléments progressent, mais en 1962, c'est encore des éléments qui sont minoritaires sur l'ensemble des logements de la ville. Par exemple, si on prend l'exemple de l'eau chaude, moins d'un logement sur deux, encore en 1962, a de l'eau chaude à l'intérieur de son logement, alors que cette proportion, quelques années après, mais pas si longtemps, pas un nombre si important d'années que ça, puisque c'est 13 ans plus tard, on est déjà à plus de 90%. Même chose sur le fait d'avoir une baignoire ou une douche, c'est encore quelque chose qui est relativement minoritaire au début des années 60. Moins de 40% des logements ont ce type d'équipement, et là encore, on va atteindre plus de 90% pour suivre le rythme des constructions qui sont construites au fur et à mesure. Pareil sur la question des WC. Alors, je vous ai dit que cette étude était vraiment détaillée puisqu'on a le distinguo entre les WC qui sont à l'intérieur ou à l'extérieur du logement, ceux qui sont avec ou sans chasse d'eau. J'ai pris un paramètre. Et là encore, en 1962, c'est un logement sur deux seulement qui a des WC à l'intérieur avec une chasse d'eau, proportion qui va là encore nettement augmenter. Et même chose sur le chauffage local. Donc on voit bien que cette modernisation en termes de logement, elle progresse de manière quand même très rapide, hein, puisque là, on est entre 62 et 75. Donc, en l'espace d'une décennie, en gros, l'ensemble des logements, progressivement, vont accéder à ces installations, à ces équipements modernes. Et puis, donc, le troisième enseignement qu'on pouvait tirer de cette étude, c'est que en dépit de ce rythme rapide de construction, en dépit de la modernisation qui avance rapidement, on a toute la crise du logement n'est pas encore complètement résolue, puisque en 1962, on compte encore 260 constructions provisoires, pour l'essentiel, donc ce que j'ai évoqué tout à l'heure, les baraquements ou les cités d'urgence. Ça représente quand même un peu plus de 1000 personnes qui sont encore logées dans ces conditions-là au début des années 60, donc environ 8% de la population. Et autre signe aussi de cette précarité qui persiste en matière de logement, c'est le fait qu'encore en 62, 40% des logements sont considérés comme étant surpeuplés. Donc, c'est-à-dire entre le ratio entre la surface disponible et le nombre d'habitants, en 62, c'est 40% des logements qui sont considérés comme surpeuplés, donc signe aussi de cette précarité qui persiste encore malgré tout en matière de logement. Et de fait, les nombreux programmes de construction donc, qui vont être réalisés dans les années 50 et dans les années 60 vont améliorer progressivement ces conditions. Et je vais laisser la parole à Roselyne Bussière pour nous présenter quelques-uns de ces programmes de construction qui sont réalisés au cours de ces années-là et qui répondent à ces problématiques.
Et à nouveau, je vais vous parler de Raymond Lopez, bien sûr. Et au vu de ce que vient de vous exposer Damien, on comprend peut-être mieux cette quête de la modernité qu'il a vraiment incarnée, parce que c'est vrai que c'était vraiment son dada. Alors, en guise d'introduction, mais je ne vais pas commencer par lui, puisque c'est le quatrième programme que je développerai, j'ai mis la résidence de la Tour pour faire le lien avec ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est-à-dire, si vous vous souvenez bien, des bas quartiers, donc que dès 1941, la ville de Mantes voulait reconstruire.
C'est là véritablement que Raymond Lopez donc, a pu donner libre cours à sa quête de modernité. Alors je reviens un petit peu en arrière. Donc la crise de l'habitat, elle est là. Damien vous l'a présentée tout à fait de manière complète. Et donc pour résoudre cette crise de l'habitat, j'ai pris cinq exemples qui me paraissent importants, qui sont quand même dans lesquels on retrouve toujours le nom de Raymond Lopez. Donc c'est un élément important et qui font aussi référence au grand débat qui a lieu depuis on va dire le début du XXe siècle, la querelle entre les architectes et les urbanistes qui voudraient que les gens habitent dans des immeubles et la préférence des Français, notamment pour l'habitat pavillonnaire. Ça a donné lieu à ce que on appelle la marée pavillonnaire, c'est-à-dire cette extension indéfinie du logement individuel. Et c'est vraiment une querelle très forte et on va voir qu'à Mantes, il y a eu une petite tentative dans ce sens-là. Alors commençons par les immeubles de la rue Saint-Nicolas, donc qui se trouvent, je crois que j'ai mis un plan pour vous les situer, ils se trouvent à mi-chemin entre le Val-Fouré et le centre de Mantes. Et donc voici le projet réalisé par Raymond Lopez. Donc ce que vous voyez tout en haut, c'est les arbres de la route nationale. Je me souviens jamais du nom du maréchal Juin, bordé donc par des immeubles. Et vous voyez, il y a une construction urbanistique très importante avec cette distribution autour d'un espace clos. Voici le plan de cette résidence. Et donc, vous allez les reconnaître si vous ne les avez pas encore vus. Les voici. Donc, vous les voyez, vous passez devant très souvent. Eh bien, c'est Raymond Lopez donc qui les a construits. Donc on est en 1953. Évidemment, à Gassicourt, les terrains libres depuis l'annexion par la ville de Mantes en 1930, c'est une opportunité extrêmement forte pour Mantes. Et donc c'est là que sont construits ces immeubles qui sont vraiment caractéristiques de l'architecture des années 50. C'est-à-dire ce que vous voyez sur la rue, c'est ce qu'on appelle la façade de service, avec les travées d'escalier donc qui donnent de ce côté-là, et puis des balcons, mais des balcons de service qui correspondent plutôt aux pièces de service, aux cuisines et aux garde-manger. Et puis de l'autre côté, donc en plus tourné vers le sud, ça tombe bien. Là, on est côté nord et côté de la nationale, donc des immeubles, les façades principales. Alors, sous ces immeubles, ça aussi, c'est caractéristique des années 50-60, passent des routes, donc, mais qui sont des routes de distribution locale. Ce ne sont pas du tout des grands axes. Il y a un soin. Alors, quand on passe vite devant, on se dit, bon, c'est les barres qui sont là. En réalité, si on les examine, si on examine notamment les pignons, vous voyez qu'il y a une très grande recherche dans le traitement des pignons, avec ces petits balcons donc qui sont en biais, qui sont tout à fait soignés. Il y a une recherche aussi dans le traitement des entrées qu'on verra à plusieurs reprises, donc avec cet auvent qui est soutenu par un pilier qui est tout à fait élégant. Donc ces logements-ci, c'est des logements collectifs construits en 1953 sous la houlette de Raymond Lopez. Exactement à la même époque et de l'autre côté de la ville, donc a été construite le lotissement a été construit le lotissement dit le groupe des Cordeliers. Je pense que vous le voyez, c'est cet espace qui est cerné de rouge. Alors peut-être pour que vous le voyez, que vous l'ayez en tête avant que je ne vous le décrive. Donc ce sont ces maisons aussi, voilà. Donc je reviens en arrière. Raymond Lopez avait fait, lui, un projet. Ça, c'est le projet de Raymond Lopez. Donc, en 1953, il avait lui aussi envisagé... je pense qu'il s'était fait violence, parce que Raymond Lopez, il préfère, selon la charte d'Athènes, d'ailleurs, il adopte les principes de la charte d'Athènes, ce qu'il veut, c'est construire en hauteur, et on le verra plus tard, pour libérer de l'espace au sol et qu'il y ait des espaces verts. Là, on est exactement dans la démarche contraire, mais il avait dû répondre à une commande, je pense. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un lotissement, on pourrait dire, à l'américaine. C'est-à-dire que la parcelle n'est pas découpée. Dans les lotissements de type français, chaque habitant a sa propre parcelle. Là, c'est une immense parcelle, donc qui n'est pas découpée, qui est une copropriété, en fait, et autour de laquelle sont disposés les immeubles. Alors, vous voyez les immeubles de Raymond. Le plan d'ensemble est quand même dû à Raymond Lopez. Mais lui n'avait pas prévu ces immeubles décalés les uns par rapport aux autres, qui sont l'œuvre de l'architecte Houdin. Donc ça, c'est le plan qui a été réalisé. Vous voyez des maisons qui forment une sorte de triangle curviligne avec un espace commun au centre, un espace vert, qui à l'époque était largement ouvert, c'est-à-dire on pouvait le traverser, qui aujourd'hui, avec la résidentialisation qui règne partout, est replié sur lui-même. Ces maisons, donc qu'on peut qualifier de pavillons en série, elles ne sont pas très grandes, mais elles disposent de tous les éléments de la modernité dont parlait Damien, c'est-à-dire elles ont salle de bain, toilette, eau chaude, enfin, je ne sais pas les vérifier, mais évidemment. Mais vous voyez, ce sont quand même de petites maisons, hein, qui ont, là c'est de type F3, c'est de taille relativement réduite. Alors ce qui est intéressant à noter, c'est que si vous voyez le plan qui est ici, on voit encore que dans la pièce à vivre, c'est la table qui occupe l'essentiel de l'espace, c'est-à-dire c'est encore une salle à manger. La notion de salle de séjour, qu'on va voir apparaître justement un petit peu après, n'est pas encore adoptée dans cette partie-là. Bon, voilà ces édifices qui sont très simples, mais qui néanmoins construisent, sont intéressants du point de vue urbain et construisent un espace urbain qui est tout à fait qualifié. Et j'en profite pour saluer Hélène Bouisson qui vient d'arriver, qui est l'architecte avec laquelle je fais le repérage du bâti sur place, et elle qui est architecte était particulièrement sensible à la qualité de ces bâtiments qui sont, il faut bien le dire, tout simples. Donc voici, c'est toujours la même chose, les petits détails qui font toute leur importance, par exemple les portes. Donc voilà, les portes, à l'origine les portes étaient précédé d'un petit auvent en béton en saillie, soutenu par des sortes de claustras, on va dire. Celle de gauche, c'est la maison d'angle, donc la claustra est double. Puis après, vous voyez, les claustras sont toutes simples. Et donc, là, la porte de la photographie de droite, la porte est exactement sans doute dans son jus. Bon, aujourd'hui, ces portes ne sont plus du tout conformes. Notamment pour les problèmes de perte de chaleur, et elles sont souvent remplacées par des portes en PVC, ce qui nuit à la qualité de l'ensemble, mais enfin est un peu irréversible. Pas très loin de là, il y a un autre lotissement aussi qui s'appelle la résidence du Bouzet, qui est exactement contemporain de cette époque et qui a été réalisé par un architecte dont on trouve souvent le nom à Mende, c'est Gaujard, c'était un architecte du Cru. Donc, elle est intéressante, cette résidence, parce qu'elle mélange les deux. C'est-à-dire, vous avez sur la rue, donc c'est pas très loin de la résidence que je vous ai montrée du groupe des Cordeliers. Elle mêle habitat collectif, donc ce petit immeuble ici, dont vous retrouvez à nouveau cette façade de service tournée vers la rue avec ces deux travées d'escalier. Et puis, donc voici la travée d'escalier avec ce quadrillage qu'on avait de l'autre côté. Et puis un habitat pavillonnaire inspiré de ce que je vous ai montré. Donc c'est une résidence qui mélange les deux aspects. On voit bien qu'on est dans une quête là. Je pense vraiment que Raymond Lopez, lui, était tout à fait hostile à ce type d'habitat, mais il devait parfois tenir compte des habitants. Alors, il y a un autre grand architecte dont je voudrais citer le nom, c'est Candilis, dont on a eu la surprise de trouver la présence à Mantes. Alors, je dois dire réellement que ça n'est pas l'immeuble lui-même qui m'a permis de me dire « ça, c'est du Candilis ». Parce que ces immeubles, vous allez les voir, alors je vous les montre peut-être selon cette logique-là tout de suite aussi, les voici. Donc ils sont situés à Gassicourt, vous voyez, on les aperçoit de ce côté-là, pas très loin de l'école Ferdinand Buisson par exemple. Et malheureusement, ils ont été très, on va dire, relookés dans les années 90, je pense. je suis pas allée faire de recherche là-dessus, mais ils ont changé d'allure. Mais à l'origine, donc je reviens là, voilà à quoi ils ressemblaient. C'était des logements donc qui ont été réalisés dans le cadre d'un concours. Donc toujours pour résoudre cette fameuse crise du logement qui vraiment est prégnante dans toute la France, le ministère de la Reconstruction avait lancé un concours qui s'appelait le concours Million. Et l'idée, c'était de construire un logement pour 1 000 000 de francs de l'époque. Et donc, plusieurs architectes ont répondu à ce concours, et notamment Candilis, donc, qui a obtenu le droit de construire des logements, dans le cadre d'une opération qui s'appelle les LOPOFA, logements populaires familiaux, donc, dont voici un exemple. On est en 1955, là, et donc, ce sont des logements, en fait, comment dire, très contraints. Les plans, si on les regarde... Pardon, je suis allée dans le mauvais sens. Les plans, si on les regarde, donc, sont très économiques, on va dire. C'est-à-dire qu'on a regroupé, bon, ce qui est logique d'une manière générale, on a regroupé les salles d'eau, vous voyez, les salles de les cuisines. Alors, voici un détail d'un logement de 4 pièces, par exemple. Et ce qui est intéressant, on trouve vraiment des manies, en fait, qu'on verra au Val-Fouré. Je ne sais pas si un jour on fera une conférence aussi sur le Val-Fouré, mais c'est vraiment dans l'air du temps. Donc, vous rentrez dans l'appartement, et puis vous arrivez dans le séjour, et il y a très souvent une chambre qui est une chambre qui donne sur le séjour. Ce qui permet, c'est un élément une variante, en fait. Soit la famille n'est pas nombreuse et ça fait un séjour plus grand, soit la famille s'agrandit et ça fait une chambre supplémentaire. Et puis, il y a un autre élément très intéressant aussi, c'est que si vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, les cuisines, la cuisine est là, et il y a une communication secondaire qui se fait entre la cuisine et les salles d'eau, en fait, et les toilettes. Ça aussi, c'est caractéristique de cette époque-là où on cherche à rentabiliser au maximum. Et puis, donc, dans le séjour, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le séjour n'est plus la salle à manger, comme c'était le cas 2 ans avant dans les immeubles que je vous ai montrés. Là, la pièce, c'est un séjour avec une table pour déjeuner qui est ici, qui est un peu mise dans un coin, on va dire. Et puis, on voit apparaître donc les fauteuils pour faire salon. Donc, il y a aussi un changement qui est en marche ici et qui va se généraliser après. Donc ces immeubles, ils ont été réhabilités dans les années 90, je pense. On les a dotés de toitures alors qu'à l'origine, vous voyez, c'était vraiment des immeubles des années 50 à toit plat. Et puis on les a recouverts à l'extérieur. On les a même dotés d'un faux pignon, un faux fronton, on va dire, pour leur donner un peu plus de prestige, j'imagine. Et on arrive donc à notre dernière étape dans cette modernité des logements dans les années 50-60. Ce sont ces fameux bas-quartiers. Donc je reviens en arrière un petit peu. Au sortir de la guerre, donc tous ces quartiers ici avaient été bombardés et ont été reconstruits selon le processus qu'on avait examiné la dernière fois. Mais tous ces quartiers-là restaient encore intacts. Enfin, ils n'avaient pas été bombardés. Ces quartiers, on les appelait les bas quartiers. Donc, c'était du petit habitat très hétérogène, en fait. Et il y a eu plusieurs enquêtes qui ont montré. On a à la fois des petites maisons sans aucun confort, c'est évident, qui n'avaient même pas l'eau courante, j'imagine, et qui étaient très pauvrement construites. Et puis, on avait des espaces plus grands, des jardins. Enfin, c'était... comme on construisait au Moyen-Âge et dans les temps modernes, c'était un habitat mixte fait à la fois de petites maisons et de maisons plus grandes. Alors, ces bas-quartiers, donc, aujourd'hui, c'est... Donc là, vous apercevez en bas la figure de proue des bâtiments de la reconstruction, des logements individuels. Et puis ici, donc... ce qui a remplacé les bas-quartiers. Donc, vous voyez, c'est vraiment là, Raymond Lopez laisse libre cours tout à fait à sa volonté de modernité. En haut, ici, vous avez ce qu'il y avait avant, alors une petite partie de ce qu'il y avait avant, et en bas, vous avez ce qui a été reconstruit. Donc, on a à la fois éliminé le tracé des rues, on a aussi éliminé la conception d'ensemble des maisons. Alors, voilà, ce plan-là qui est aux Archives nationales est vraiment tout à fait caractéristique. Pour vous situer ici, on reconnaît bien cette forme arrondie là qui est la trace de l'ancien ravelin de la ceinture de fortification de Mantes. Et donc, ça, c'est les bas-quartiers qui vont être reconstruits. Et donc, l'îlot que je vous ai montré, qui a une forme un petit peu arrondi, on va dire, il chevauche ici sur les deux. Le voici un peu plus en détail, et voici ce que ça donne aujourd'hui. Donc, cette opération, elle a été décidée en 1957. C'est une opération de rénovation du quartier, donc, mais je vous rappelle que ça remontait à 1941. Hein. Dès 1941, on voulait vraiment mettre les bas quartiers, on va dire. Et on a lancé une enquête à la fois démographique, économique et sociale. Le premier projet de Raymond Lopez date de 1958, l'enquête publique de 1959, et puis les premiers plans masse réalisés montrent un projet que je vais vous montrer, et la première tranche a été commencée en octobre 1960. Alors voilà le premier projet de Raymond Lopez. Donc, vous reconnaissez cette première tranche qui a été effectivement construite, c'est les deux barres qui existent, mais vous voyez que Raymond Lopez, dans un premier temps, avait vraiment prévu quelque chose de très moderne, c'est-à-dire rien que des barres que vous apercevez ici. Donc l'îlot, il est là, hein, dans sa forme, et il avait prévu donc ces deux barres, la barre et la tour qui ont été construites, mais partout ailleurs aussi des barres, je ne sais pas si vous les voyez, mais on les devine, hein, ce sont de grands rectangles. L'enquête publique est vraiment intéressante, je ne me résiste pas au plaisir de vous lire. Donc, il y a eu une enquête publique, le commissaire enquêteur a réuni les remarques, et un habitant 6 bis rue d'Ardennes dit « Nous protestons énergiquement sous l'appellation médiocre et vétuste de notre maison. Agréez, monsieur, mais nos salutations distinguées. » Et de l'autre côté, « Je ne suis pas d'accord avec le projet et j'ai l'honneur de porter à votre connaissance des erreurs. » Bon, les pièces habitables, enfin, etc. Donc, ça n'a pas fait consensus, et on s'en doute, évidemment, c'était quand même un changement drastique. Deuxième projet de Raymond Lopez, donc, que voici, qui a changé donc les barres que je vous ai montrées tout à l'heure en petits immeubles qu'on va appeler des immeubles plots, qui ressemblent beaucoup à ce qui sera réalisé. Mais en regardant ce plan, on voit que seules deux maisons devaient être conservées. Pour vous situer, là, c'est la rue de la Gabelle, où se trouve la maison à pan de bois que vous connaissez. Donc là, elle devait être détruite. En fait, si vous regardez, elle est globalement, approximativement, elle est là, si j'arrive. Hein. Voilà, elle est là. Les deux seules maisons qui devaient être conservées, ce sont deux constructions qui dataient de 1934 et qui étaient des logements, des HBM, en fait, qui étaient en bon état. On ne pouvait pas les accuser d'être vétustes. Donc, dans un premier temps, on avait décidé de les conserver. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce premier projet-là, donc, n'a pas été réalisé? Donc, pourtant, le plan masse est approuvé en avril 64. En juin 64, l'ordonnance d'expropriation est faite, mais arrive l'architecte des bâtiments de France, M. Delaunay. Alors, M. Delaunay n'est pas content du tout, parce que, pour vous rappeler les choses, on est dans le périmètre de 500 mètres de la collégiale, qui est protégée au titre des monuments historiques. Donc, M. Delaunay aurait dû être consulté sur toutes les transformations dans ce périmètre. Donc, il écrit au maire, « Contrairement à ce que vous m'avez écrit le 26 octobre, mon service devait être consulté pour les projets de démolition situés dans le champ de visibilité d'édifices protégés, même s'il ne s'agissait pas d'immeubles classés ou inscrits. » Donc, en fait, l'argument qui avait été utilisé, c'était que ces édifices sont vétustes et ne sont pas protégés, donc on peut les détruire sans avoir l'accord de l'ABF. Mais l'ABF intervient. Donc, il demande au maire de sursoir aux démolitions des immeubles dans l'îlot en question. Le 2 avril, donc, l'ABF écrit à nouveau, l'instruction des différents projets suit une procédure singulière. En effet, le permis de construire concernant la première tranche semble illégal puisqu'il ne comporte pas l'avis conforme du service des monuments historiques qui n'a pas été consulté. Il en est, donc ça, c'est la résidence de la tour, la première. Bon, c'est fait, c'est fait. En plus, j'ai oublié de vous le montrer, mais elle a remplacé des espaces relativement vastes. D'ailleurs, ça n'est pas un hasard. Si on a commencé par cette première tranche, il y avait une densité bâtie moins grande et ça a été plus facile d'exproprier. Là, c'est très dense. Donc, en ce qui concerne la deuxième tranche, mon service attend toujours les documents demandés et le maire lui répond, et je trouve que sa réponse est magnifique. Je partage entièrement votre point de vue sur la nécessité pour le service des monuments historiques et des sites d'être saisi de tous les projets de construction qui intéressent à quelque titre que ce soit l'esthétique de la ville. J'espère donc que vous serez très prochainement en mesure de donner votre avis, car il importe que l'opération de rénovation ne subisse pas de nouveaux retards. Donc vous pouvez donner votre avis, mais il faudrait qu'il soit dans le bon sens. Finalement, un nouveau projet donc est présenté en mai 1966. Alors, il est signé Lopez, mais Raymond Lopez est mort en février 1966. Néanmoins, son fils Rémi Lopez prend sa suite, et donc c'est quand même un projet Lopez. Et donc, ce nouveau projet, donc le voici. Donc, c'est celui qui a été construit avec des immeubles plots qui sont de tailles différentes pour protéger des cônes de vue sur la Seine. Et si vous regardez donc ce nouveau projet, ici, la maison à pan de bois est conservée. Alors, et normalement, les deux autres aussi. Mais la maison à pan de bois est conservée, elle devait servir de maison de gardien. C'est ce qui est prévu sur la carte. Alors, on sent bien qu'il y a eu un compromis qui a été fait entre les deux. Et le bulletin municipal dit « Les monuments historiques ont exigé que soient conservés les vieux bâtiments du 4, 6 et 8 rue de la Gabelle qui feront la transition entre les groupes HLM du quai de la Tour et les maisons traditionnelles de la rue Nationale. » On peut dire qu'on se donne un petit peu bonne conscience, quoi. C'est-à-dire on ménage la chèvre et le chou, on détruit ce qu'on veut détruire et puis on garde une petite trace du passé. Donc, voilà la résidence en cours de construction. Donc les maisons en question, elles sont ici. Mais vous voyez que ces deux-là aussi donc, avaient été au départ conservées. Mais aujourd'hui, elles sont détruites. Et voilà cette fameuse maison, donc dite maison médiévale, qui a été conservée. En réalité, si on creuse un petit peu... Alors évidemment, elle a une allure médiévale parce qu'elle est à pan de bois. Bon, mais ces pans de bois, si on les regarde attentivement, ils n'étaient pas destinés à être vus, en fait. C'était des pans de bois qui étaient enduits, comme c'était traditionnel. Les pans de bois destinés à être vus sont beaucoup plus soignés, beaucoup plus réguliers, et en général font l'objet de sculptures sur les amortissements. Ici, ça n'est pas le cas. Et si vous regardez cette carte postale donc de la rue de la Gabelle au moment des inondations de 1910, la maison à pans de bois, elle est sur la gauche ici, et vous voyez qu'il n'y a pas de pans de bois. Elle est ici, on la reconnaît à son encorbellement, donc il n'y avait pas de pans de bois. Si on regarde aussi la maison donc en question sur le cadastre napoléonien, c'est la parcelle 162 qui est ici. Donc la rue de la Gabelle est là, la Seine est au bout de la rue de la Gabelle. Ça, c'est le cadastre napoléonien 1810. Donc c'est une maison qui a plutôt une petite façade sur la rue de la Gabelle et une grande façade sur l'autre rue. Et si on regarde la même maison donc lors du relevé pour la reconstruction, vous voyez, elle a changé de direction en fait. C'est-à-dire que c'est une maison tout en longueur comme elle est aujourd'hui et elle présente son pignon sur l'autre rue. Donc en fait, elle n'était pas si médiévale que ça, c'est ce que je voulais dire. Elle avait fait l'objet de nombreuses transformations. Alors voilà cet îlot composé de la résidence de la Tour et de la résidence Saint-Maclou tel qu'il est aujourd'hui. Finalement, ma recherche n'est pas allée jusque-là, mais on n'a pas conservé les immeubles qui étaient là. Et on a un petit peu perdu, c'est toujours le problème avec les plans de grande qualité que fait Raymond Lopez. Il fait des plans et puis après la réalité s'empare du sujet et modifier un petit peu ce dont il avait rêvé. Donc là, voilà cette résidence qui est une résidence, il faut bien dire, de grande qualité. Et je sais qu'il y a des gens qui habitent ici. Tout à l'heure, si vous voulez bien intervenir pour faire part de votre vécu, on va dire, ça serait intéressant. Bon, donc c'est quand même de... Ça, c'est la barre. Donc c'est quand même Raymond Lopez. Il est, je vous l'ai dit, il veut libérer le sol pour construire en hauteur et pour avoir plus d'espace au sol. Malheureusement, c'est toujours la même chose. Si c'est pour mettre du goudron et des voitures, ça perd en qualité. Mais on sent bien la patte quand même de cet architecte. Bon, je vous montre les photos. Voilà. Donc, j'en ai fini pour cette première étape donc de ces logements, vous voyez, finalement, de plus en plus modernes. Et on sent qu'il y a une progression vers la modernité.
Sur la question sur la seconde partie qu'on va aborder maintenant, donc autour des équipements et des bâtiments publics, juste quelques mots pour vous dire que, un peu de la même manière que ce qu'on observait pour la question de l'habitat, au sortir de la guerre, la situation en matière de bâtiments et d'équipements publics n'est là non plus pas très reluisante, en tout cas assez peu adaptée au développement donc démographique et économique qu'on a vu tout à l'heure qui s'amorce. Plusieurs facteurs se conjuguent là encore pour expliquer cet état de fait. On a d'abord un certain nombre de bâtiments qui ont été détruits, en tout cas fortement endommagés lors des bombardements. L'hôtel de ville, bien sûr, mais aussi on peut évoquer le stade Fayol sur l'île aux Dames, l'auberge de jeunesse de la même manière, ou encore l'école de la rue de la Sangle. Deuxième facteur, on a d'autres bâtiments qui ont été édifiés, alors pour la plupart au cours du 19e siècle, et qui sont effectivement dans un état vieillissant, dégradé, en tout cas inadapté. C'est par exemple le cas de l'hôpital. Et puis d'autres enfin qui n'existent pas, alors que certains services apparaissent aujourd'hui comme indispensables à une ville de, comme on l'a vu, de plus de 15 000 habitants en fort développement. Par exemple, la bibliothèque n'a jamais eu réellement de bâtiment propre. Elle est installée justement provisoirement au premier étage de ce bâtiment. Il n'y a pas de collège ni de lycée, pas de piscine, pas de marché couvert. Bref, il y a un certain nombre d'équipements qui manquaient au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, toutes ces raisons conduisent la nouvelle municipalité donc à engager un vaste programme de construction d'équipements publics, et ce, donc, dès la fin des années 40. Hein, je vous ai dit tout à l'heure à quel point ces questions en matière étaient prégnantes dans la vie politique de l'époque. Donc, la première phase de la reconstruction sur ce plan-là, elle se concentre essentiellement donc sur l'édification du nouveau centre administratif de l'hôtel de ville, du nouvel hôtel de ville. Hein, c'est la priorité qui est donnée. Un peu plus tardivement, donc les années 1950 voient au contraire la réalisation donc de nombreux équipements en matière publique et qui, là encore, vont marquer incontestablement l'entrée de Mende dans la modernité, à la fois dans leur conception même. Roselyne vous en dira quelques mots de manière plus détaillée tout à l'heure, mais aussi dans leur fonction, avec une place désormais beaucoup plus reconnue, assumée, même promue parfois à tous les équipements dédiés aux loisirs, à la culture, au sport, etc. Autant d'équipements qui n'apparaissaient pas ou que de manière très très marginale avant la Seconde Guerre mondiale et dont était de fait encore largement dépourvue la commune de Mende. Or, sans vous faire une liste complètement exhaustive, mais parmi les principales réalisations en matière d'équipements et de bâtiments publics qui ont eu lieu au cours de ces années 50-60, on a alors en matière d'établissement scolaire, on a donc l'école Lumière qui va être reconstruite en lieu et place de l'ancienne école de garçons, donc rue de la Sangle. De la même manière, le groupe scolaire, donc Paul Bert, qui va être reconstruit aussi sur les ruines de l'ancienne école de garçons, donc ces deux établissements qui avaient été fortement impactés par les bombardements, ou encore le groupe scolaire Pasteur, et puis bien sûr le lycée un peu plus tard. En matière d'équipement, la principale réalisation, ça va être le stade à l'époque de la demi-lune, hein, qui est construit dès le début des années 50, mais on a ici la construction de la piscine sur l'île aux Dames, également construite au cours des années 50, entre 55 et 58. En matière d'équipement culturel et de loisirs, on a donc la construction juste à côté d'ici de la bibliothèque Georges Duhamel, l'aménagement également d'une auberge de jeunesse. Et puis donc je vous ai parlé de l'hôpital tout à l'heure, on a également donc la reconstruction complète de l'hôpital de Mantes, et puis d'autres réalisations qu'on peut évoquer comme la construction donc du marché couvert, donc il y a un foyer de jeunes filles, on retrouve l'architecte Gaujard d'ailleurs en la matière, donc au début des années 60. Voilà, la liste n'est pas exhaustive, mais pour vous montrer que c'est quand même un nombre là aussi important de constructions en matière d'équipement public. Et de la même manière que pour le logement, il faut bien voir que tout cela aussi se fait aussi sur une période réduite, à peu près deux décennies, et que de fait la plupart des équipements publics dont bénéficient donc les Mantais sont très récents. Tout cela s'inscrivant, là encore, dans un programme de reconstruction globale, avec cette volonté vraiment affirmée de modernisation et de développement de la ville, et qui, là encore une fois, dépasse très largement le cadre des destructions et des dommages qu'on avait observés suite au bombardement de l'année 44. On le voit bien, puisque certains bâtiments jugés trop endommagés ou trop vétustes ont été entièrement reconstruits sur le même site. C'est le cas de l'école Lumière que j'évoquais tout à l'heure, ou encore de l'hôpital. D'autres, au contraire, ont certes été détruits, en tout cas fortement endommagés, vont être reconstruites, mais à un emplacement et avec une envergure complètement différente. Ça va être le cas pour le stade. Donc on voit bien que tout cela se fait, là encore, dans le cadre d'un programme d'aménagement beaucoup plus important. Et pour en terminer, pour dire que la reconstruction pour Mantes, en matière d'équipement et de bâtiments publics, c'est vraiment, là encore, l'occasion de se développer et de moderniser, puisque, je vous l'ai dit, il y avait finalement assez peu d'équipements publics, certains étaient vieillissants, donc là encore, ça va constituer vraiment l'occasion de moderniser ces équipements publics. Et au-delà même de l'ampleur de ce programme de construction, donc tant par leur nombre et par la diversité des équipements, de tous les équipements publics que j'ai rappelés qui sont construits en cette époque, c'est vraiment leur conception même, un résolument encore une fois moderne et audacieuse sur le plan architectural, qui est prégnante et qui mérite qu'on s'y attarde quelque peu à travers donc ces quelques exemples que je vais laisser Roselyne nous détailler, donc sur l'hôpital, le lycée, la bibliothèque et encore une fois l'hôtel de ville dans son extension.
Merci. Alors évidemment, on aurait pu détailler tous les bâtiments, mais le point commun de ceux que je cite là, c'est encore et toujours Raymond Lopez. Ce sont des bâtiments qui ont été réalisés selon ses plans ou par lui-même. Alors l'hôpital, je vais relativement peu en parler parce que mon étude est en cours. Donc vous le situez, c'est une vue aérienne qui date de la fin des années 50, donc vous localisez le cimetière ici et l'hôpital qui est ici, l'hôpital qui a été donc entièrement reconstruit selon les plans de Raymond Lopez. J'ai trouvé les documents aux archives de Mantes. Au passage, je dois dire que les archives de Mantes, c'est un bonheur, parce qu'il y a vraiment, on y trouve tout, tout est à disposition, on est très bien accueillis, donc c'est quand même un élément important à signaler. Donc ma recherche est en cours, mais en tout cas il est certain que c'est Raymond Lopez qui a construit cet hôpital. Auparavant, l'hôpital datait de la fin du 19e siècle et Marabout l'avait agrandi dans les années 30, donc on retrouve toujours les mêmes architectes. Ensuite, le lycée. Alors le lycée, donc, il a été construit en... Il était prévu en 1956, mais réalisé en 1958. Et ce qui est intéressant, donc c'est le lycée Saint-Exupéry, c'est qu'il a été... donc c'est Raymond Lopez, toujours. Il a été fait selon un procédé que demandait le ministère de l'Éducation nationale, qui est celui d'une trame. Donc c'est un lycée construit selon un plan type. Et c'est pour ça que je pense que vous avez l'impression qu'on en revoit beaucoup des lycées comme ça. C'est donc pour accélérer la construction des lycées, il faut dire qu'il y avait un retard important dans ce domaine. Donc, le ministère de l'Éducation nationale a créé un module de base d'1,75 m, qu'on appelle donc un lycée tram, c'est-à-dire ce module d'1,75 m est répété indéfiniment, ce qui permet de faire des longueurs plus ou moins grandes et de gagner du temps et de faire des constructions en série très rapides. Donc c'est un élément à tenir, dont il faut tenir compte. Néanmoins, on voit quand même que la qualité de l'architecture, bon, bien sûr, c'est répétitif, mais si on regarde, par exemple, les sortes de petits toits en chêne qu'on aperçoit à gauche, les petits toits en zigzag, là, on voit qu'il y a une volonté de rupture par rapport à un rectangle qui serait parfaitement isocèle. Voici donc l'ensemble des deux lycées, le lycée Saint-Exupéry et le lycée technique dont le nom m'échappe tout d'un coup. Oui, Jean Rostand, voilà, merci. Et Jean Rostand. Et donc, lui est construit dans les années 60 selon la technique du mur rideau, mais ça n'est pas Raymond Lopez. Bien sûr, l'autre élément extrêmement novateur, c'est cette magnifique médiathèque qui, à mon avis, mériterait d'être labellisée comme architecture du XXe siècle. Elle est vraiment remarquable. Elle a été prévue dès 1963. C'est vraiment Raymond Lopez qui en est... J'ai eu un doute à un moment donné, pensant que c'était Henri Longepierre qui l'avait réalisée, mais les premiers projets sont vraiment de Raymond Lopez, qui est mort avant qu'elle ne soit véritablement terminée, puisqu'il est mort en février et qu'elle a été inaugurée, je crois, en 69, mais elle était terminée fin 66. Et son fils Rémi Lopez, et c'est Henri Longepierre qui ont pris la suite. Cette bibliothèque, elle a été publiée dans une revue qui s'appelle l'architecture, je ne sais plus de laquelle il s'agit, l'architecture d'aujourd'hui. Elle a été publiée donc en 1967, et elle était mise sur le même pied que la bibliothèque de Clamart, La joie par les livres, donc, qui elle est protégée au titre des monuments historiques, même si je crois qu'elle est un petit peu menacée aujourd'hui. Mais donc c'est vous dire que cette architecture très novatrice, notamment un plan extrêmement simple de deux carrés superposés, donc qui sont très lisibles et qui sont construits selon des techniques ultramodernes de murs rideaux, etc., et une trame de poutres IPN. Donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait remarquable, qui n'a pas été transformé et qui n'a pas besoin, enfin qui ne supporterait pas d'être transformé. Du coup, c'est un élément extrêmement important. Alors au départ, donc une salle avait été prévue pour une discothèque, même j'ai trouvé ça sur internet, et à partir de 1970, donc il y avait une table d'écoute avec magnétophone, etc., pour aller écouter de la musique. Donc c'est vraiment un élément très important. Et puis bien sûr, on ne peut pas évoquer tous ces bâtiments construits dans l'après-guerre sans parler de l'hôtel de ville, de l'extension de l'hôtel de ville. Alors la dernière fois, je vous ai parlé de l'hôtel de ville première version, donc dans sa petite extension qui datait de 1948. Si vous vous souvenez, Raymond Lopez avait fait un premier projet un petit peu classique avec un beffroi, une tour beffroi, et puis finalement c'est la modernité qui l'a emporté, la modernité des années 50. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il avait prévu, c'était vraiment un visionnaire, je pense, il avait prévu que ce premier bâtiment serait susceptible d'être agrandi. Et donc vous avez ici sur le plan le bâtiment de 1958 ici, et puis l'agrandissement 10 ans plus tard, qui permet donc d'agrandir sans supprimer des choses. Alors évidemment, vous le connaissez bien, c'est aussi un élément de la modernité à Mantes qui, à mon avis, mériterait d'être labellisé comme architecture du XXe siècle, parce que c'est vraiment tout à fait intéressant. Donc voilà les différentes façades que vous connaissez. Voilà cette façade-ci que j'aime particulièrement parce qu'elle est percée d'une fenêtre qui correspondait au bureau du maire à l'époque, qui donc faisait paysage. En fait, on va voir des photos de l'intérieur. Et alors cette mairie, donc, elle a été La première mairie de 1948 avait été meublée avec des meubles commandés sur des catalogues, en fait. La seconde mairie, par contre, a fait l'objet d'une commande à des décorateurs, dont M. Boisselier, qui était à l'époque un tout jeune décorateur qui après a fait une longue carrière. Et vous trouverez sur Internet son site où on voit qu'il a vraiment fait une carrière importante. Donc en 1900, au moment de la construction de cet agrandissement, Jean-Paul David, sans doute dans un souci, dans un souci de modernité, a demandé à un décorateur de faire la décoration. Et le résultat, c'est que la mairie a été publiée dans la revue que j'ai apportée ici, qui s'appelle Connaissance des Arts, de février 1973, comme étant, vous voyez, allez voir à Mantes la jolie, allez voir à Mantes la plus jolie mairie de France. Donc c'est vraiment la modernité, tout à fait. Alors voilà les pages de cet article qui mettent en avant, bien sûr, c'est un mobilier qui n'a pas été créé spécialement pour ça, mais la chaise tulipe que vous voyez là, c'est vraiment, le parangon de la modernité à cette époque-là. La Marianne, c'est la Marianne elle était là avant, elle date de l'après-guerre, mais elle est quand même importante. Et voilà donc toujours l'article qui vous montre donc en bas à gauche le bureau du maire avec cette vue sur le parc que je vous montrais tout à l'heure. Vous voyez les fauteuils donc qui ont été, eux ils ont été créés, m'a dit Monsieur Boisselier avec qui j'ai échangé au téléphone, ils avaient été créés spécialement. Mais le reste, ça n'est pas le cas. Voilà la salle des mariages qui est aussi tout à fait extraordinaire, et puis l'escalier. On va détailler un petit peu. Alors l'escalier, ça c'est des photographies du fond Bertin. L'escalier, Monsieur Boisselier m'a dit que ça avait été l'idée de peindre ces rayures horizontales qui faisaient écho aux marches de cet escalier, donc qui est en échelle de perroquet en fait, mais qui est vraiment d'une grande élégance. Ça lui était venu, tout d'un coup, quoi. C'était une évidence pour lui, il fallait faire des rayures. Donc c'est vrai que ça avait une grande qualité qui est peut-être un peu perdue aujourd'hui. Le bureau du maire, donc, avec cette ouverture sur le panorama. La salle des mariages, donc là, ce sont des photos anciennes, mais vous voyez bien qu'elle n'a pas changé. Donc les fameux sièges tulipes dont on a parlé. Et alors ça, c'est la deuxième partie, l'ancien bureau du maire qui aujourd'hui est une salle de, une salle de réception, on va dire. Salle de réception était un bureau modulable, en fait. Il y avait la partie où il y avait son bureau et la partie où il pouvait organiser des réunions. Et entre les deux, on pouvait tirer un rideau. Et donc voilà le mobilier qui le décorait. Alors, je vous ai montré des photos d'avant. Là, ce sont des photos actuelles. Donc, la salle des mariages qui a conservé ses bancs d'une blancheur immaculée qui sont vraiment exceptionnels, ses sièges tulipes, enfin, tout y est. L'escalier, donc, est toujours là. Malheureusement, enfin, je trouve que la perte des rayures est la banalisée, on va dire. Comment ?
Les rayures ont coûté.
Voilà des sièges donc qui étaient répartis dans les bureaux. Je crois que c'était le bureau du premier adjoint qui avait des sièges Vassili et une table Barcelona. Donc c'était la modernité de l'époque. Encore une fois, c'était c'était pas des meubles de créateurs. Enfin, c'était des tirages, on va dire, qui pouvaient s'acheter, mais quand même, ça montre le souci. Les fauteuils donc qui étaient dans le bureau du maire, ils sont aujourd'hui en face du bureau du maire actuel qui est dans la partie ancienne de l'édifice. Et voilà donc l'ancien bureau du maire qui a été transformé en salle de réception, donc qui a la fenêtre elle-même qui faisait paysage. Du coup, la photographie le masque, mais elle a été coupée par une cloison qui a permis de créer un espace supplémentaire. Alors, Raymond Lopez, donc, jusqu'à présent, a construit beaucoup à Mantes, mais il a dû se couler quand même dans un carcan, qui était le carcan de la ville ancienne. Devant lui, à partir de 1956-58, s'ouvre un boulevard, on va dire, quelque chose d'extraordinaire pour un urbaniste, c'est le champ d'aviation de Gassicourt, donc que vous apercevez ici, qui est une table rase. C'est pour un urbaniste, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et donc, très rapidement, dès 1956, avant même que les aides PPAUP n'existent, puisqu'elles n'existent que depuis 1959, il avait prévu d'urbaniser cet endroit, donc, et de laisser libre cours à ces principes de la charte d'Athènes, qui consistait à construire en hauteur, à libérer le sol, etc. Mais donc c'est le Val-Fouré, mais ceci, ça n'est pas l'objet de la conférence de ce soir. Ça fera peut-être l'objet d'une autre conférence plus tard, par quelqu'un d'autre peut-être. Voilà, je vous remercie, nous vous remercions de votre attention. Et
Y avait-il quelques questions? Si vous souhaitiez échanger avec Madame Bussière et Monsieur Boucher, n'hésitez pas, aussi. Des témoignages pour enrichir un petit peu l'exposé.
Je sais que dans la salle, il y a beaucoup de Mantais. Moi, j'habitais pas en Mantes, mais j'y travaillais. C'est l'histoire des rayures. Oui. Je peux vous dire qu'ils ont coûté. Parce que, à un moment donné, il y avait une fissure dans ces rayures, il a fallu les refaire. Et ces rayures étaient en brin dégradé, du plus fort au plus faible, au premier couleur. Et pour les faire, il fallait vraiment bien aligner. Et c'est une entreprise de Mantes qui a fait cette réalisation. C'est dommage qu'on supprime parce que les rayures avec l'escalier allaient extrêmement bien. Et je me demande comment que les architectes peuvent faire des choses superbes. Mais comment pouvoir les garder ou les conserver? Oui, je pense à d'autres sites. Vous avez évoqué tout à l'heure pour Saint-Malo, Le Havre. J'ai un autre site en ce moment où je suis bien au courant, c'est le site des Serres d'Auteuil. Point de vue architecture. Donc tout cet ensemble-là doit être conservé. Et je me pose des questions sur cette réunion d'aujourd'hui. La prochaine ou les prochaines réunions, il y a aussi un bouleversement extraordinaire, que j'apprécie pas toujours, au point de vue construction, pas reconstruction, mais construction dans ce vieux Mantes. Et je me demande qu'est-ce que ça va devenir.
Dans
le vieux Mantes. Oui. L'histoire de la petite maison de la Gabelle, elle est vraiment anecdotique, on pourrait presque faire un ouvrage là-dessus, hein, entre ce qui a été fait, réalisé, isolation, fissure, tout ça. Moi j'étais présent, j'étais à côté de tout cela, vous voyez, pour vous dire. Alors, de revoir tout ça, ça nous fait plaisir de comprendre. Comme le citait de Gassicourt, c'était le quartier très sensible de Mantes-la-Jolie avant. Hein. C'est quand on faisait, par exemple, les décorations de Noël, le quartier n'était pas toujours bien facile à conserver nos équipements de Noël. Puis maintenant, tout ça, ça a changé. C'est formidable, c'est bien. Mais il y a des parts d'histoire de Mantes qu'il faudrait mettre. Mais ça, c'est peut-être pas le débat d'aujourd'hui, mais de mettre beaucoup plus en exemple et de citer, parce que Mantes-la-Jolie est une ville d'art et d'histoire. Voilà.
Merci. Les habitants de la cité de la résidence Saint-Maclou, moi j'aimerais avoir votre témoignage d'habitants. Est-ce que vous trouvez que c'est agréable d'y vivre?
Oui, c'est vrai qu'à l'époque, j'ai la chance d'avoir mon papa qui travaillait chez Gojard et qui m'a donc un peu expliqué le plan d'urbanisme. C'est vrai que les constructions, vous l'avez dit, pour ça que je me permets juste de le redire, mais les immeubles bas étaient les plus en bas du terrain en pente. Puis ensuite, il y a eu en effet cet épanelage jusqu'à cette grande barre de la Sémicle, qui était faite peut-être pour Monsieur Lopez aime les hauteurs, mais surtout pour cacher ce qu'il y avait derrière, parce que c'était un écran visuel de la zone d'activité où il y avait la laiterie, il y avait toutes ces choses, chez nous Maillard, enfin, qui étaient moches, et donc c'était les abattoirs, donc c'était un écran visuel à l'époque. Hein, cette barre cachait la misère derrière, quoi, voilà. Et c'est vrai que les bâtiments étaient tous orientés à l'est pour avoir, et c'est ce qu'on a tous les jours, le soleil une grande partie de la journée. Puis puisqu'on est à est, sud et ouest, et même bon, on a des façades au nord, mais beaucoup moins. Voilà. Et donc c'est vrai qu'avec ce geste architectural d'avoir des balcons un sur deux permet d'avoir aussi le soleil le mieux, voilà, avec cette protection également avec les balcons pour ceux du dessous. Et donc c'est vrai qu'il y a une grande part de l'espace vert qui permet de vivre très bien, c'est vrai qu'on y est très bien, et qu'il y a une caractéristique qu'on ne trouve plus dans les immeubles d'aujourd'hui, c'est qu'on a des locaux communs résidentiels très grands, hein, c'est-à-dire qu'on a des sous-sols, hein, très nombreux, où on peut faire des salles de convivialité chez nous, par exemple, qui renforcent la convivialité, justement. Et on a vraiment des grands, grands locaux. Pensez que quand on regarde les halls d'entrée et tous ces espaces qui sont, entre guillemets, un peu perdus, on pourrait beaucoup maintenant construire des petits studios et voilà, ce serait.
Identifier.
Voilà, c'est ça.
Merci.
Voilà. Bon,
et
voilà.
Et en termes de performance énergétique, est-ce qu'il y a des problèmes ?
Alors, c'est-à-dire que là, c'est vrai que nous, on se bat absolument pour ne pas faire de l'isolation par l'extérieur. C'est de la pierre qui vient de juste à côté, qui est très épaisse. Avec une double isolation, on n'a pas de souci. On a simplement de la perte, et là, on va le faire refaire, justement, c'est les toitures. Voilà, donc on va refaire isolation, étanchéité, isolation, étanchéité. Sinon, les fenêtres ont toutes été changées, mais ça, ce sont que des priorités de privé. Enfin, on ne peut pas l'imposer à tout le monde. Donc on a quand même une très bonne qualité de vie, parce que même si on est dans les bas quartiers, qu'il faut monter au centre-ville, qui est des fois quelque chose de néfaste pour des gens qui ne peuvent plus trop marcher. Mais c'est vrai qu'on a quand même à 3 minutes cette promenade le long de la Seine qui a été faite par Monsieur Picard, et puis une vue extraordinaire. On est à la campagne, hein, dans notre coin. Hein.
Et à deux, enfin à trois pas de.
Voilà.
De
ouais.
J'ai oublié de dire quelque chose qui est quand même intéressant sur l'histoire de la prise de conscience du patrimoine. Donc, en 1964, donc, tandis que Monsieur David était tout à fait partisan de détruire donc les bas quartiers pour faire ses réalisations, il se battait aussi pour sauver, vraiment en même temps, pour sauver l'Hôtel Dieu. C'était une époque où on considérait que le patrimoine, on n'utilisait pas ce mot, mais le monument était important, mais où l'espace urbain n'avait pas encore pris ses qualités. Et c'est à ce moment-là que Malraux a créé les secteurs sauvegardés. Enfin, on est vraiment dans cette période charnière, mais c'est un élément important que j'avais oublié de souligner.
Oui, bonsoir. Par rapport aux résidences de la brasserie Saint-Roch et Quai de la Tour, moi, j'y ai pas habité, mais j'allais voir mes cousins qui habitaient là dans les années 70. Et c'est intéressant ce que j'ai vu là sur l'évolution du projet, qu'au départ c'était que des barres, et ensuite cette barre est restée, et ensuite des îlots. Alors moi je voudrais témoigner par rapport à ça, parce que j'y ai joué étant enfant, donc c'était très agréable d'y jouer quand on était gamin, c'était un espace ouvert, enfin c'était formidable, il y avait des jeux pour les enfants, toboggan, tourniquet, etc. Par contre, c'est marrant parce que cette barre, en fait, que vous dites qui était un peu un cache-misère, eh ben, en fait, moi, j'ai trouvé qu'il y avait une différence au niveau social. C'est-à-dire que dans cette barre, alors je sais pas si c'était accès à la propriété sur les îlots ou pas. Non. C'était deux projets différents. Eh ben, ça se ressentait, en fin de compte. Ça se ressent quand j'allais dans cet endroit-là pour y jouer, eh ben, je trouvais que les gens qui habitaient dans la barre, socialement, était moins élevé que les gens qui habitaient dans les îlots. Ça marche pas. Si. La barre, c'était des logements sociaux. Ah, voilà. Ah bah, maintenant, je comprends. Je comprends. Et d'ailleurs, quand on allait jouer en bas, on se faisait chasser. On n'avait pas le droit d'aller en bas. Mais ceci dit, ce sont très bons souvenirs. Très bons souvenirs d'enfance. J'ai adoré cet endroit-là.
Oui, vous avez parlé de garder l'Hôtel Dieu et quelques bâtiments. Je peux en témoigner tout à fait de la volonté de Jean-Paul David de conserver l'Hôtel Dieu. C'était un projet qui lui tenait beaucoup à cœur, pour en faire d'ailleurs ce qui est aujourd'hui, c'est-à-dire les musées, enfin le musée Luce, le musée, les musées de la ville. Il y a un petit clin d'œil quand on regarde le plan de la ville, quelque chose qui n'a pas été réussi entre guillemets. Vous regardez la mairie, le bureau du maire. Vous avez parlé du bureau du maire avec cette magnifique fenêtre qui donne sur le parc. En effet, c'est extraordinaire. Mais lorsqu'on regarde par les fenêtres de côté, c'est-à-dire pas celles qui donnent sur le parc, mais celles quand on est le dos au parc à gauche, imaginons qu'il n'y ait pas la pizzeria, etc. devant, et en réalité, on voit le Valfouré. Et l'objectif qui avait été fait, c'était d'avoir de l'avenue du Maréchal Juin, on devait voir le bureau du maire au bout de l'avenue. Hein, pour ceux qui s'en souviennent, on devait voir le bureau du maire, c'est-à-dire que le maire voyait ses habitants et les habitants voyaient le maire. C'était l'idée de l'appropriation, entre guillemets, de la ville. Sauf que pour des raisons politiques, le pharmacien, etc., était opposé et il y a eu une cabale qui s'est montée et le Lilo n'a jamais été détruit et fait. Donc il manque un bout de parc. Alors bon, on a agrandi et tout, mais il y a toujours l'Lilo de la pizzeria. Et c'était aussi dans la conception, avec Lopez certainement, d'avoir, puisque j'assistais à l'inauguration, etc., d'avoir cette perspective qui n'a jamais pu se faire, malheureusement.
Alors, un truc tout bête, mais bon, moi j'avais 15 ans, bon, et il y avait une affiche, c'est « Non, monsieur le maire, maintenez pas Chicago » en 60.
Non, une anecdote pour montrer que Jean-Paul David était très, ça a été le maire de la reconstruction, il faut reconnaître, très moderniste, très cultivé d'ailleurs. La Mante a eu cette chance d'avoir à cette époque-là un maire qui avait une belle culture. Et même, quelles que soient les opinions qu'on pouvait avoir sur lui, c'était un homme cultivé qui était ouvert à la modernité, etc. Et ça se sent, ça s'est senti dans ses choix. Mais d'ailleurs, c'était amusant parce que lorsqu'il y avait des réunions où il était contesté, dans les années, pour ceux qui se souviennent des réunions publiques, lorsqu'il y avait des débats avec les habitants, etc., la première chose qu'il disait, c'est où vous habitiez il y a 5 ans? Est-ce que vous aviez des WC? Est-ce que vous aviez l'eau? On retrouve exactement le problème de la modernité. Donc, quand les gens le râlaient, la première chose, c'est où vous habitiez il y a 5 ans ou il y a 10 ans? Est-ce que Mantes n'est pas plus moderne aujourd'hui? Voilà. C'était son argument et c'est. On sentait bien que c'était ça qui le motivait.
Et quelle était sa formation, monsieur David? Il était
juridique.
Comment?
Droit. Je crois qu'il avait une licence ou un doctorat en droit.
Parce qu'il y a David. Enfin, à plusieurs reprises, j'ai trouvé le nom de David comme architecte.
Non, il n'était pas. Non. C'était. Il avait fait des études de droit. Il était. Il avait fait la guerre comme officier de cavalerie dans la 2e DB. Et après, bon, ça c'est autre chose, c'est la politique. Mais c'était un homme qui avait fait du droit. C'est la raison pour laquelle il s'accrochait souvent avec les juristes, l'administration.
Il y a une petite anecdote, M. Picard, que vous devez savoir, c'est l'histoire de la petite fenêtre. Comment elle a été construite? Le regard. Cette fenêtre a été construite sous les ordres de Jean-Paul David parce qu'il voulait voir. Et cette fenêtre, elle a été faite après. C'est-à-dire qu'il a fallu découper le béton au disque, tout ça. J'étais présent, tout ça. Pour vous dire, il voulait avoir absolument une vue sur le square. C'était sa fenêtre.
Bonsoir. Je voudrais juste faire une petite intervention par rapport à Henri Longepierre, qui était donc dans l'agence Lopez, et qui a repris le flambeau du travail de Raymond Lopez. Et on a eu l'occasion avec Damien Boucher de le rencontrer, de le faire venir il y a maintenant plusieurs années. Et donc aujourd'hui, ce monsieur est toujours en vie. On a du mal à rentrer en contact avec lui parce qu'il est très, très affaibli. Mais ce qu'il pouvait dire, en tout cas par rapport à Rémi Lopez, le fils, c'est qu'il a prêté son nom pour que les dossiers continuent et ça a été assez court en fait la présence de Rémi. Donc même si vous retrouvez sur les plans les initiales, alors en plus ils s'appellent tous les deux R. Lopez, c'est un peu difficile, mais justement ça, je pense que d'un point de vue commercial c'était aussi voilà. Mais en fait Rémi Lopez le fils, lui habite dans le Var, on était rentré en contact aussi avec lui, et vraiment cette partie de la carrière de son père l'intéressait pas du tout du tout, hein. Donc voilà, c'est une petite petite indication. Et par contre Henri Longepierre donc a été impliqué très tôt, puisque dans l'agence Lopez, il y avait en gros comme 3 sous-agences. Et au décès de Lopez-Raymond, les chantiers ont été partagés. Et il avait une implication sur le territoire très forte, Henri Longepierre. Et il avait aussi acheté une maison dans le village de Véteuil. Et il racontait que le vendredi, quand il y avait les réunions de chantier, eh bien, lui, il allait ensuite passer son week-end sur Véteuil. Voilà. Il avait vraiment un attachement par rapport au territoire. Et donc, on retrouve dans les conseils municipaux, on retrouve très souvent Henri Longepierre pour beaucoup, beaucoup de constructions, des équipements, des petites choses. Enfin, le château d'eau du Val-Fouré qui est en métal, c'est quand même quelque chose de très rare, hein. C'est aussi Henri Longepierre. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont dans le paysage qui sont dues à une patte moderne. Évidemment tracé, parce qu'il avait, quand je parlais de Lopez avec Longepierre, il avait un grand respect, une grande admiration, hein, mais quelque chose voilà qui s'est perduré avec lui. Et une autre petite remarque, là je m'éloigne de l'autre sujet. Vous avez parlé des Lopofa sur la Croix Ferrée. Il se trouve que il y a une autre opération Lopofa à Mantes-la-Ville sur la place du marché. Une petite opération, c'est un bâtiment qui est un peu plus préservé sur le côté de la place du marché. Et la même année, il y a eu aussi une opération sur la commune de Rambouillet, également dans les Yvelines, comme c'était des programmes départementaux. Voilà. Enfin, j'en ai parlé avec l'archiviste de Mantes-la-Ville qui a eu cette expression en disant « Mais ce type de logement Lopofa, Candilis et ses deux associés, parce qu'ils étaient 3, ils ont labouré la France. » Et on peut retrouver ces logements vraiment, mais partout.
Oui, sur Internet, il y a beaucoup de...
Monsieur.
Si vous permettez une question tout à fait mineure.
Oui.
Étant moi-même originaire de l'Est de la France, je me demande pourquoi au centre-ville, il y a un certain nombre de rues qui portent des noms venant de l'Est. La rue de Metz, la rue de Colmar.
C'est la guerre...
La guerre de 14.
Les noms des batailles de la guerre de 14, les villes
partout. Moi, je me demande si ça ne remonte pas à la guerre de 1870. Parce que... Les deux, voilà. Parce que l'annexion, je ne devrais pas dire, l'agrandissement de Mantes, la jolie sur Mantes-la-Ville, a été fait en 1855. Et donc ça dépassait la rue de Lorraine, en fait, c'est tout ce qui est entre la gare et la rue de Lorraine. Et donc c'est à ce moment-là qu'a été tressé donc c'est aussi la guerre de... Peut-être les deux. Ah, vous êtes d'accord?
Oui. Après tout ce qui est rue de Verdun, rue de la Marne.
Oui, Verdun, c'est évident. Mais Alsace-Lorraine, je pense que c'est 70. Oui, je vous en prie.
Une petite question justement par rapport au boulevard Maréchal Juin. Oui. Ça m'intrigue toujours cette statue du maréchal. Je ne sais pas si c'est avant la construction du Val-Fouré ou pas. Ah, c'est de là. Oui, bon bah c'est pas grave. Mais pourquoi il est dirigé vers... Il n'est pas la direction de cette statue. Celle au bout du Maréchal Juin, de l'âtre. Est-ce que c'est avant la construction du Val Fouré ou après? Oui, mais c'est avant ou après la construction du Val Fouré?
Après.
Donc c'est volontaire qu'elle regarde vers le Val Fouré?
Ah. Elle a été déplacée pour le carrefour. C'est pas mon époque. Elle a été déplacée. Elle occupait une place plus centrale. Et pour l'aménagement des carrefours urbains de l'entrée du Val Fouré, elle a été déplacée. Et je suppose que ceux qui l'ont déplacée n'ont pas regardé de quel côté regardait le maréchal. Hein. Ah. Voilà, parce que normalement, il doit regarder là où il a fait les batailles, là où il a gagné. Il faut se rappeler que le Jean-Paul David était un officier des chars dans la 2e DB. Donc, il avait un attachement particulier à ce type de bataille. Voilà. Mais la mémoire se perd. Simplement, je voulais simplement confirmer ce que disait Madame tout à l'heure. À Mantes, les anciens connaissaient Lopez. Tout de suite après, il n'y avait qu'un seul architecte qui circulait dans Mantes, c'était Longepierre. Hein.
Oui, Rémi Lopez, c'est
Rémi Lopez, rien, c'est Longepierre.
Mais en tout cas, son nom est sur les plans pendant longtemps.
Je voulais juste vous préciser que la dernière intervention que vous venez d'entendre est celle de M. Paul Picard, qui a été maire de Mantes de 1977 à 1995. Voilà, pour ceux qui ne... Voilà.
Oui, pardon.
Oui, on a vu une photo des grandes vignes tout à l'heure. Alors, moi, j'y ai habité. Hein, j'étais enfant. J'ai très peu de souvenirs. Je me souviens quand même du tracteur qui tondait la pelouse du terrain d'aviation. Donc on devait certainement habiter sur la façade qui donnait sur l'ancien terrain d'aviation. J'ai déménagé en 57. Et moi, je me souviens très très bien quand je suis né. Donc je suis né à l'hôpital de Mantes, n'existait pas. Je suis né côté de la voie ferrée, là. C'était le dispensaire ensuite, hein. La maternité, voilà. Et oui, quand je blague des fois quand je dis que après que ma mère ait dit « Oh, qu'il est beau ce bébé », j'ai entendu le train, comme je suis devenu cheminot ensuite. Voilà. Sans doute que la première chose que j'ai entendue, c'est une machine à vapeur qui est passée sous les fenêtres de la maternité. Mais moi, ma mère mes parents, donc, quand vous parlez de la promiscuité et de la difficulté de logement, mes parents habitaient donc, ma mère et mon père habitaient donc chez la belle-mère, hein, enfin, c'était la grand-mère de mon père qui habitait là, mais rue Camille Thibault. Et donc, ma mère a été très, très heureuse d'aller habiter effectivement la cité des grandes vignes, hein, les cités d'urgence. Moi, j'ai connu ça. Alors, le paradoxe, si vous voulez, le côté amusant, c'est qu'ensuite, mes parents sont partis en 57 pour aller habiter à Mantes-la-Ville, les fameux castors que les gens construisaient eux-mêmes. Et il y avait une cité d'urgence aussi à Mantes-la-Ville, hein. Du côté de la rue. Non. Oui, non, là, il y avait une cité d'urgence qui se trouvait à côté. Non, à Mantes-la-Ville. Moi, je parle. Alors, excusez-moi, à côté de l'école Armand Gaillard. Là, il y a eu à un moment donné, il y a une petite cité d'urgence. Et alors, rue des Vaumeneuses, voilà. Et moi, j'allais à l'école avec ces jeunes de la cité d'urgence, et ils me prenaient pour un riche, enfin un bourgeois, puisque mes parents avaient une petite maison juste en face, quoi. Alors que je venais moi-même d'une cité d'urgence. Hein, c'est l'éternel recommencement. Et comment dire, donc on n'y est pas resté très longtemps. Moi, la question que j'avais, c'est que j'ai vu ces photos d'ensemble. Est-ce qu'aux archives de Mantes, il y a d'autres photos et des témoignages de cette vie qu'il y a eu à la cité d'urgence, à la cité des grandes vignes?
Donc, merci à vous tous.